Bonjour, c'est Clotilde Saï qui vous souhaite la bienvenue au National, l'émission qui vous permet d'entendre les sujets d'intérêt généraux partout au Canada, d'est en ouest, comme on dit, des sujets qui vous ont peut-être échappé dans notre programmation cette semaine. Alors pour commencer, je vais me faire plaisir et je l'espère vous combler en vous présentant de nouveau le moment savoureux que j'ai passé en compagnie de Marie Laberge dans le cadre de l'émission « Des livres plein les oreilles ». Marie Laberge, 40 ans d'écriture, l'an dernier.
Oui.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se fête et vous avez fêté ça en grand, non pas avec un, mais deux livres.
Oui, je trouvais que c'est important de faire un cadeau au lectorat parce que... 40 ans d'écriture sans lecteur, c'est 40 ans de misère.
Hein? Oui, oui.
Et c'est 40 ans de tristesse.
Et Dieu
alors,
sait,
j'ai eu beaucoup de joie.
Oui, et Dieu sait que vous êtes lue en plus. Alors,
oui.
C'est vraiment extraordinaire. Vous êtes une des auteurs les plus lues du Québec. Et ça, c'était d'ailleurs la raison pour laquelle je me disais, il faut à tout prix qu'on arrive
à se voir toutes les deux.
À se voir et puis surtout aussi à ce que les auditeurs puissent profiter de votre présence ici. Je ne reviendrai pas sur les 40 ans de carrière en 15 minutes,
non, sans doute.
Mais je voudrais par contre qu'on passe du temps sur ces deux livres-là que j'ai sous mes mains en ce moment. Et on va commencer par l'essai.
D'accord.
On va commencer par l'essai 13 verbes pour vivre, qui est un petit bijou de livre. Et ben, honnêtement, je me disais, et c'est ma première question, d'abord, on va dire un petit peu de quoi il s'agit. 13 verbes pour vivre, 13 verbes pour s'intensifier, et là, pour intensifier, pardon, et je vous cite, approfondir, élargir celui de vivre. Donc, 13 verbes qui trouvent leur écho dans votre vie d'auteur, Marie Laberge. Comment ? Pourquoi, comme ça, tout d'un coup, vous êtes... Moi, je me suis dit ça, c'est autour d'une table. Avec un bon petit verre de vin, on parle...
Même pas.
Toi, c'est quoi tes verbes importants? Non, même pas.
Comme je l'explique un peu dans l'avant-propos, c'est que quand j'ai eu 40 ans,
oui.
Je me suis dit, oh, ça serait intéressant de faire une sorte de liste des verbes que je trouve très, très importants et de dire pourquoi. Et puis, à 50 ans, de les relire et de recommencer pour voir si ça reste les mêmes verbes, puis le refaire aussi à 60 ans. Et quand j'ai eu 40 ans, je ne voyais pas mes 70 ans. Bien sûr, parce que on voit ça tellement loin,
oui.
Tellement peu, mais ce n'est pas vrai. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai eu 40 ans, j'étais dans le théâtre et je travaillais énormément et je n'ai pas eu le temps de le faire. Quand j'ai eu 50 ans, c'était la trilogie.
Oui.
Et quand j'ai eu 60 ans, c'était Martha.
Ah, ben oui.
Alors, c'était les lettres de Martha. Alors, finalement, je ne l'ai jamais fait. Et tout à coup, je me suis dit, oh, ça fait 40 ans de carrière cette année. Et là, ça m'a fait, tiens, 40 ans, tu te souviens-tu, tu voulais faire les 13 verbes? Puis là, je me suis dit, ben, peut-être qu'on ne change pas tant que ça dans une vie, alors fais-le donc rien qu'une fois.
Et pourquoi 13?
Oh, parce que je suis une fille qui préfère les chiffres impairs. Et parce que je trouve que la douzaine, ça faisait un petit peu mesquin, ça faisait cheap un peu, ça faisait...
On va vous rajouter un 9 à la douzaine, madame.
J'ai toujours adoré ça. Dans le blé d'Inde, ils font beaucoup ça.
Oui, c'est vrai.
Au marché, ils disent, ah ouais, non, un autre pour la loque. J'aime beaucoup cette idée-là.
Permettez, si vous le voulez bien, que je cite ces verbes-là pour...
Faire la liste,
pour les auditeurs, c'est parce que c'est quand même relativement court. Alors, on commence avec jouir.
Ah, ça, c'est un beau début.
Croire, exprimer, ça là on se rejoint, respecter, douter, apprendre, quitter, assumer, espérer, pardonner, vieillir, aimer, mourir. Et puis un dernier petit chapitre à vous, avec, très important, des pages blanches.
Oui.
Je voudrais qu'on en parle tout de suite des pages blanches, parce qu'avant d'avoir lu ce que vous avez écrit, je me suis dit, oh je sais pourquoi elle a mis ça. Je m'en doutais.
Oui, c'est parce que pour moi, si moi j'avais cette envie-là personnellement, comme c'est un essai, je me suis dit, peut-être que l'envie va être contaminée.
Exactement.
Peut-être que le lecteur va éprouver tout à coup soit l'envie de piquer une phrase ou soit l'envie de continuer un verbe à sa façon pour sa vie, pour sa propre expérience. Puis je voulais qu'il y ait quelque chose pour le faire. Parce que des fois, on veut faire ça, ça nous vient... Puis là, j'avais des pages à la fin. Mais il y a mieux que ça, c'est que j'ai un petit carnet avec la même couverture que je donne quand je suis dans les salons du livre, qui vient avec moi, qu'on a imprimé à quelques milliers d'exemplaires, pour pouvoir les offrir à ceux qui me rencontrent et qui ont aussi une dédicace. Alors, ça me faisait, tiens, un petit cadeau supplémentaire. Et ce que j'aimais, c'est que ça faisait une grande plage quand on met les deux livres un à côté de l'autre, le carnet et le livre. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de petits oiseaux sur le bord d'une plage.
Vous avez un profond respect pour les gens qui vous lisent, hein, Marie Laberge.
Oui, c'est vrai.
On pourrait penser...
Et même de l'amour.
Et même de l'amour. Parce qu'on pourrait penser, oui, oh, ben, c'est normal, c'est une vérité, mais non. Je suis convaincue qu'il y a parfois des gens qui écrivent et qui n'ont même peut-être pas...
L'idée même de la personne qui va le recevoir. Je crois qu'on l'a nécessairement quand on corrige. Quand on corrige son livre, il faut penser à celui qui va le lire, parce que sinon, on corrige pour rien, comme dans les airs. C'est vraiment comme quand on assaisonne un mets. Il faut penser, attends, y a-t-il du monde qui n'aime pas ça salé? Il faut y penser tout de suite. Les gens qui vont être à notre table, qu'est-ce que c'est qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils ne mangent pas? Bon, dans l'élaboration d'un menu, mais il reste que, pour moi... J'ai été très chanceuse dans ma vie. J'ai eu le bonheur d'être lue. Et c'est une chose qui n'est pas donnée à tout le monde et c'est une chose qui n'est pas constante et qui n'est pas accordée pour toujours. Moi, chaque livre que je sors, je ne sais pas s'il va être lu. C'est sûr que ça a l'air fou de dire ça à cause des tirages que j'ai eus, puis les gens se disent, ben là, elle nous fait le coup. C'est pas vrai. Le doute est toujours là, profond, vrillé dans moi. C'est pas possible que je me dise, ah, oh, les gens vont aimer ça. C'est pas vrai. C'est toujours... Un essai, c'est toujours une proposition, c'est un témoignage. Mais c'est vrai que j'éprouve, en fait, probablement que c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que j'écris. C'est mon amour des êtres humains. C'est l'autre qui m'intéresse.
Et vous savez, ça m'intéresse d'autant plus ce que vous dites, Marie Laberge, que lorsque je m'adresse à des lecteurs ici, qui lisent vos livres, mais tous les autres livres, je leur dis toujours, parce qu'à un moment donné, j'ai donné des petites formations à lecture, tout ça, bref. Et je leur disais, je vous en supplie, quand vous lisez un livre, pensez à celui qui le reçoit. Vous n'êtes pas l'auteur, mais vous êtes la voix de l'auteur.
Oui, vous êtes...
Vous êtes le trait d'union.
Oui, absolument.
Alors, je vous en prie, et oui, mais comment on fait ça? Ben, je dis, imaginez une seule personne.
Voilà.
Une personne à qui vous êtes en train de raconter une histoire.
Il y a une direction. Voilà. Il y a quelqu'un à qui ça s'adresse. S'il n'y a pas de direction... C'est comme dans l'eau, ça ne marche pas.
Alors, vous l'avez expliqué très bien en avant-propos, vous nous racontez pourquoi ce livre. Et puis, moi, tout de suite, dès les premières lignes, je me suis dit, dès que j'ai lu cette livre, je me suis dit, mais alors, même si je lui demandais dans 3 semaines, est-ce qu'il y aurait un nouveau mot? Voyez-vous, donc j'étais vraiment dans votre direction.
Oui,
sauf que vous pensez 10 ans ou 20 ans. Mais, et là, aujourd'hui, si je vous demandais, là, tout de suite... Est-ce qu'il manque un mot? Non.
Je ne sais pas, il en manque toujours. Moi, je n'essaie pas d'être complète ni parfaite parce que c'est un défi qui va me paralyser. Ce n'est pas un bon défi pour moi, ça.
Non, c'est ça.
Si je pense à ça, on va recommencer la première page toute sa vie. Je n'ai pas envie de ça, je m'ennuierais. Puis finalement, je pense qu'être parfaite, ça ne m'intéresse pas trop. Mais parce que je pense que les gens parfaits, on ne les aime pas tant que ça. Alors que les imperfections, c'est ce qui nous émeut, c'est ce qui nous touche. Alors, bon, je ne la cultive pas, l'imperfection, mais disons qu'être parfaite, ça ne marche pas avec moi. Alors, je sais qu'il en manque. Je sais qu'il y a des moments où oser aurait peut-être été une bonne idée. Ou bon, il y en a plein. Mais en même temps, ce que j'essayais de faire, c'est de trouver la structure qui fait que le verbe vivre est fort.
Oui.
La structure de vie. C'est-à-dire ce qu'on acquiert, ce qu'on abandonne et ce qu'on gagne. Et à mon avis, tout ça peut se faire toute une vie durant. Et j'espère qu'on peut essayer d'imaginer qu'on vive profondément, intensément, vraiment, jusqu'au bout de sa vie. Et non pas juste le temps où il est bon de danser.
Ah, très joliment dit. Vous devriez écrire. Bon, alors...
On va essayer.
Écoutez, évidemment, je ne peux pas évoquer tous ces mots-là, mais j'y suis allée très égoïstement vers ce qui peut-être me touchait le plus, et entre autres, le verbe « exprimer », où vous dites « voilà un verbe bien dodu ». ».« ça j'adore, un verbe titanesque, il contient tant d'autres verbes qu'il donne le vertige. Exprimer, c'est dire, danser, peindre, jouer, composer, réaliser, écrire, grimacer, crier, rire, pleurer, exploser, hurler. Exprimer, c'est se dire aussi, faire connaître, informer, sensibiliser, toucher, atteindre l'autre. Et du coup, ça rappelle le contraire. Taire, se renfermer, s'éloigner, renoncer, garder, cacher, dissimuler. Ça me touche particulièrement parce que je travaille entre autres avec des gens qui sont extrêmement timides et justement qui vivent un peu dans l'enfermement. Et je me disais, mon Dieu, cette phrase-là sur exprimer, c'est tellement exactement, exactement ça. Sortez, d'ailleurs, je l'ai fait danser, souvent je l'ai fait crier. Alors ça m'a touché beaucoup. La vie vous a donné ce don pour l'écriture, inné, où vous avez dû travailler beaucoup, d'ailleurs.
Je pense qu'on travaille toujours. Don est un don. Ce qu'on en fait, c'est le travail qui fait la différence. Je ne pense pas qu'un don suffise. Peut-être pour le premier coup d'envoi, je ne sais pas, peut-être pour l'éclatement d'un don. J'imagine un danseur dans son enfance pouvait peut-être être extraordinaire d'expression de lui-même. Mais je sais que pour acquérir un vocabulaire, pour acquérir une gamme, des nuances, il faut travailler.
Bien sûr.
Il faut travailler.
Alors, vous vous exprimez beaucoup dans vos livres, dans la vie aussi. Hein, vous êtes quelqu'un, vous
parlez. Oui, je suis assez expansive.
C'est ça. Et je me disais, ben alors, quand elle s'exprime, est-ce que vous avez l'impression, est-ce qu'on en sait beaucoup sur Marie Laberge quand on a, parce que j'ai, tous les gens autour de moi ont tout lu de vous. Hein, parce que quand on aime Marie Laberge, on...
on passe au travers.
On passe au travers, hein, généralement. Mais c'est vrai.
Je ne sais pas si on me connaît, moi. Je ne le crois pas. Non. Parce que je suis quelqu'un de très... capable de garder des secrets très, très loin. Et je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de tout dire de moi. Ce n'est pas un besoin que j'ai. De la même façon que je n'écris pas pour me connaître ou en apprendre un peu sur ma personne. Je ne suis pas en thérapie quand j'écris.
Non, je comprends.
Et pour moi, c'est vraiment important de créer une histoire. Mais c'est sûr que tout ce que je crée vient de ma sensibilité et de mon rapport au monde. Mmh. Donc, on connaît un peu mon rapport au monde ou ma ligne de tenue.
Oui.
Alors, c'est sûr qu'on en sait un peu sur moi. Est-ce qu'on sait tout? Non. Est-ce qu'on en a besoin?
Non.
Pas du tout.
Non, c'est ça. Pardonner. Parce que, ah mon Dieu, quel verbe important. Et j'étais très surprise de lire « Pardonner est venu sur le tard dans ma vie autour de la trentaine ». Vous trouvez que c'est tard?
Oui.
Moi, je trouve ça fantastique. Je veux dire, parfois, on passe une vie entière à essayer de pardonner.
Oui, à essayer, c'est vrai. Mais peut-être parce que le débat intérieur durait depuis presque 15 ans. J'ai longuement réfléchi à ce verbe. Et si je me réfère à ce que j'ai écrit en théâtre, il y a dans une pièce qui s'appelle « Pierre ou la consolation », c'est une pièce sur le pardon.
Oui.
Mais le pardon fait partie d'un des problèmes existentiels avec lesquels je me suis débattue longtemps. Aussi, il faut dire que moi, mon âge va le dire, j'ai 65 ans, mais c'est sûr que j'ai été élevée dans une religion où le pardon était totalement et constamment évoqué sans être jamais pratiqué. Alors pour moi, c'était comme une espèce de contradiction qui m'horrifiait et je me sentais moi-même inadéquate à le faire. Alors, c'était très compliqué pour moi parce qu'on ne parle que de pardon dans cette religion où j'ai été élevée, qui est la catholique. Et pourtant, on ne le fait pas beaucoup. Et pourtant, on abuse de ce pouvoir de pardonner qu'ont les prêtres et de ce pouvoir sur les ouailles qu'ils ont et tous les abus qu'ils ont commis. Il y a quelque chose chez moi qui s'est cassé dans cette espèce de quête de pardon. Mais en même temps, je crois profondément qu'un être humain qui ne sait pas pardonner est un être humain handicapé à vie parce qu'il se fait du mal. On pense toujours qu'on attaque l'autre quand on ne pardonne pas, mais c'est soi-même et sa capacité de rire, de vivre et de courir vers l'autre qui est handicapé. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Mais c'est tellement long, tellement long. C'est comme aimer, hein? C'est long.
Oui, mais bravo d'avoir réussi à 30 ans.
Je peux dire, écoutez, je travaille encore dessus, ce verbe-là.
OK, d'accord. OK. Oh mon Dieu, que le temps file. Je savais que je voulais vous garder une heure de temps. Il nous reste encore quelques petites minutes, mais j'avais encore tellement de choses à voir avec vous. Bon, arrivons à la fin de ces pages-là et de cet essai-là. Je vous rappelle que je suis avec Marie Laberge, si vous venez tout juste de vous joindre à nous. On parle d'abord de cet essai 13 verbes pour vivre. Évidemment, naître et mourir, et entre les deux, notre immense responsabilité, celle de vivre. C'est ainsi que s'achève votre essai, avant que vous nous adressiez quelques mots. Et dans le roman que vous avez sorti pour célébrer votre 40e anniversaire, Dieu sait si la mort, l'absence, le manque, la culpabilité, tout ce qu'on veut, est au cœur de ce roman qui s'appelle « Ceux qui restent ».
Oui, c'est vrai.
Encore une fois, une structure importante. Et pour vous, hein, la structure d'un livre, c'est absolument fondamental.
Je viens du théâtre et c'est un art où s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de spectacle.
Voilà. Et c'est quelque chose qui se sent. Hein. On se souvient de la cérémonie des anges.
Oui, c'est vrai.
Avec elle et lui. Et là, ce que vous mettez en scène, ce sont tous les personnages, Marie Laberge, au lendemain d'un suicide.
Enfin, à quelque temps, ça dépend du personnage, mais après le
voilà,
suicide.
Après
les gens
suicide.
Qui étaient près, très proches de quelqu'un qui a décidé d'en finir.
Avec, alors, des personnages qui ont tout à voir les uns entre les autres, parce qu'évidemment, on
parle...
Il y a ce lien, mais en même temps, différence d'âge, différents niveaux de langage, parce que ce sont des gens... Et là, je vous imaginais en train d'écrire, par exemple, quand on passe d'une Charlène qui est dans ce bar à Vincent, qui est le père, qui lui est prof. Hein,
bon, en fait, non, c'est un dentiste.
Oui, c'est ça.
C'est un dentiste très bien élevé.
C'est ça, exactement.
Et qui écrit dans la norme.
Et alors, c'est remarquable parce que le niveau de langage, on sait tout de suite qui parle, on sait tout de suite qui s'exprime. Évidemment, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a vécu quelque chose comme ceci autour d'elle, mais c'est pour ça d'ailleurs qui m'intéresse. Et êtes-vous allé vous informer auprès de gens? Parce que je trouve... Parce que moi, j'ai déjà eu autour de moi des gens qui ont vécu cet enfer-là.
Et mais je pense que tout le monde connaît quelqu'un qui s'est tué.
Ouais.
Ça, je pense que dans notre société maintenant, il faut vraiment être sourd et aveugle pour ne pas voir, ne pas sentir qu'il y a une détresse terrible chez les gens qui sont proches. Moi, c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont tués, mais jamais dans mon cercle immédiat. Je tiens à le dire parce que le cercle immédiat, quand son père, sa mère, sa sœur ou son amant ou son amante se tue, là, on est ailleurs dans le niveau de détresse que ça engendre. Mais je me sers de ma sensibilité, moi, quand j'écris. Et ma sensibilité est très grande et très ennuyante dans la vie, mais quand j'écris, c'est merveilleux.
En tout cas, vous êtes d'une lucidité... Non, mais c'est vrai, imparable. Alors, il y a tous ces personnages. Il y en a, évidemment, qui se posent des questions, parce qu'en plus, ce fameux Sylvain-là n'a rien laissé, quoi.
Rien laissé. Il avait 29 ans, donc c'était la vraie fleur de l'âge. Et puis, la violence qu'on s'inflige à soi en se tuant, on s'imagine qu'on est les seuls à la subir, on est les seuls à souffrir auparavant. Et on ne s'imagine pas à quel point cette violence-là se répercute sur tout le monde. Tous ceux qui aiment la personne qui se tue sont des gens qui reçoivent un coup dont ils doivent se remettre, et un coup qui les marquera à jamais. Mais moi, je voulais voir comment on reprend sa vie, comment la vie revient, comment il faut aller vers la vie, mais comment c'est quand même possible. Et c'est avec chacun, et chacun à sa façon. Hein. Il y en a que c'est par la rage, il y en a que c'est par la miséricorde, il y en a que c'est par la réflexion, il y en a que c'est par le déni. Chaque être humain est intéressant dans sa souffrance. Ouais. Mais là, il y en a quand même là-dedans il y en a des drôles aussi.
Il y en a des drôles aussi.
Parce que c'est quand même un hymne à la vie.
Oui, exactement. Et donc, en fait, ce sont deux hymnes à la vie que vous nous avez donnés en héritage pour vos 40 ans de carrière littéraire. Marie Laberge, c'est tout le temps qu'on a. Ça me navre. Merci infiniment d'être venue.
Clotilde,
ici.
Merci.
L'émission des livres pleins les oreilles accueillait hier, à midi, Marie Laberge. Nous vous avons proposé de nouveau cette entrevue à l'émission Le National. L'aide médicale à mourir est le sujet de l'heure. Nous sommes le 13 septembre dernier, alors que Benoît Racette recevait Amy Hasbrook et Christian Debray, membres du mouvement Toujours vivant, Not Dead Yet, dans le cadre de l'émission Accès libre.
Je pense qu'on ne réalise pas à quel point ces derniers 20 ans, parce que c'est presque 20 ans ce débat-là, ces derniers 20 ans sont importantes et marquent presque un changement civilisationnel. Je ne me prends pas pour un 7-up. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même décidé collectivement que pour toutes sortes de raisons, on allait gérer le suicide assisté ou peut-être les soins en fin de vie, etc. Donc, c'est majeur. J'ai avec moi deux activistes de notes d'Aliette qui sont unies dans le combat, donc tous les deux cofondateurs de l'élément québécois de l'organisme qui était d'abord américain, mais aussi unies dans la vie. Alors, Amy Ashbrook, bonjour Amy.
Bonjour.
Et Christian Debré, avec nous, qui sont tous les deux avec nous en studio.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être là. Avant de lancer le débat sur... Plutôt avant d'expliquer ce qu'est votre organisation, j'aimerais ça qu'on regarde ensemble les critères d'admissibilité actuellement à l'aide médicale à mourir selon la loi C-14 qui a été adoptée par le gouvernement fédéral. Je sais que c'est difficile comme enjeu, là, mais il faut, on va essayer d'être clair. Ce qu'on dit, c'est qu'on doit être un adulte, donc d'au moins 18 ans, mentalement capable, ça c'est un gros concept, oui. de prendre pour lui-même ses décisions en matière de soins de santé. D'avoir un problème de santé grave et irrémédiable, de faire une demande volontaire d'aide médicale à mourir, donc qui ne peut résulter d'une pression extérieure, de donner son consentement éclairé à recevoir l'aide médicale à mourir et d'être admissible au service de santé financé par le gouvernement au Canada. Bon. Ça fait évidemment beaucoup de critères, sans oublier qu'il faut que la mort soit raisonnablement prévisible. Amy Ashbrook, Christian Debré, comment vous réagissez à ces critères-là?
Je crois que le gouvernement voulait avoir des protections fortes pour les personnes vulnérables. Mm-hmm. Et je crois que le gouvernement pense que ce sont des protections fortes, mais ce ne sont pas suffisants. Des personnes en situation de handicap sont quand même vulnérables à cette loi-là. D'abord parce qu'on ne peut pas avoir un consentement libre et éclairé tant que, à mourir tant que les personnes en situation d'handicap n'ont pas de vie, n'ont pas le droit à vivre où et comment ils veulent.
Mm-hmm. Ils ne peuvent pas faire les mêmes choix que les autres. Ils peuvent pas faire les mêmes choix que les autres.
Il faut que les conditions soient bonnes. Que les conditions de vie soient acceptablement bonnes, ce qui n'est pas le cas actuellement pour les personnes handicapées.
OK. Donc, quand on parle de personnes vulnérables, on pense à la charte, puis il y a même une protection au Canada, au Québec, sur cette question-là. Mais vous, ce que vous dites, c'est que dans les conditions actuelles, la vie ou la dignité n'est pas possible pour les personnes handicapées.
Oui, exactement. Parce que la discrimination se manifeste dans les attitudes et dans les barrières pour les personnes en situation de handicap. On a une situation où les personnes sont rendues vulnérables, pas par leur handicap, mais par la discrimination.
OK. Donc, vous entendez Amy Ashbrook, qui notamment est juriste sur les questions des droits et libertés.
Oui.
On entend bien cet argumentaire-là quand vous parlez. Monsieur Debré, vous êtes aussi membre de l'élément québécois de Not Aliette.
Oui.
Comment vous expliquez ou plutôt, quelle est la position de votre organisme face à la loi C-14?
Bien, c'est assez simple. On est contre. D'abord, pas rien que la loi 14, la loi 52 aussi, pour laquelle on est contre.
Loi 52, juste pour préciser, c'est la loi
du Québec.
Québec,
oui. Mm-hmm. OK. On est contre tout ce qui est euthanasie et suicide assisté pour des raisons assez juridiques et absolument pas religieuse d'aucune façon. Okay? Certaines personnes, quelquefois, quand je fais des critiques dans les journaux, m'accusent d'être religieux, mais moi, je crois en aucune religion. Nos arguments sont purement juridiques.
Amy, c'est important que vous le signaliez, parce qu'effectivement, on a souvent entendu les oppositions, j'oserais dire morales ou religieuses, au projet de loi, et vous n'êtes absolument pas là. D'ailleurs, vous avez beaucoup de membres au Québec du mouvement?
Nous n'avons pas de membres. On est un tout petit groupe de personnes et nous faisons de l'action au niveau de la presse et des autres organismes.
Okay.
Et des réseaux sociaux.
Et les réseaux sociaux aussi, les immanquables.
Oui.
Et pourquoi, pour vous, c'est ce que vous disiez d'entrée de jeu, Amy, pourquoi, pour vous, la notion de libre choix n'est pas recevable en ce moment?
Parce que le libre choix n'est pas recevable parce que des personnes en situation n'ont pas de libre choix pour vivre où et comment ils veulent. Et ça, c'est à cause des barrières dans la société. Mais aussi, le libre choix n'est pas recevable parce que les personnes non handicapées, quand ils disent qu'ils sont suicidaires, ils reçoivent des service de prévention du suicide. Mm-hmm. Mais des personnes en situation d'handicap, quand ils disent « Oh, je veux mourir », ils sont donnés de l'aide à mourir. Et ça, c'est une discrimination ouverte.
Ouais. Et la base de discrimination-là est souvent dans un mot que tous les handicapés visibles ont déjà eu et déjà entendu de la part de personnes qui ne sont pas handicapées. Hey, « Moi, j'aimerais bien mieux être mort qu'être comme vous. » Ça, tous les handicapés visibles l'ont déjà eu. Puis deuxièmement...
C'est terrible.
Ah oui, c'est un mot absolument terrible. Ça darde au cœur instantanément. Et pourtant, c'est la réalité. Surtout les personnes qui sont relativement jeunes versus des personnes qui sont handicapées lourdement, ils n'ont pas tendance à penser à la mort facilement. Ça ne vient pas naturellement. Ça ne vient certainement pas avant les 40 ans. Alors, ça arrive. Puis deuxièmement... Il y a aussi le fait que manque de revenus, manque de soins à domicile. D'ailleurs, le gouvernement vient de mettre 22 millions sur les soins à domicile, dans lesquels l'argent va aller surtout à des institutions et à des groupes de personnes qui donnent des soins et pas aux personnes elles-mêmes. Mm-hmm. Et un des facteurs qui apporte le suicide assisté, c'est le fait que la personne perd le contrôle de sa vie en étant dans un CHSLD ou dans un hôpital. Tandis que quand on donne l'argent à la personne, c'est la personne qui choisit comment et qui va donner les soins. Et ça, c'est un contrôle sur la vie.
Monsieur Drake, Madame Ashbrook, on entend qu'il manque de services. On le dit assez souvent, y compris à cette émission. Mais est-ce qu'une aide médicale à mourir pourrait cohabiter avec plus de services adéquats en soutien à domicile ou autre pour les personnes en situation d'handicap?
Mais le problème, c'est que ça ne serait pas nécessaire. Des personnes ont déjà le droit de se suicider ou de demander de soins palliatifs, même de sédation palliative, ça ne doit pas être continu. Et ce n'est pas nécessaire.
C'est intéressant ce que vous dites. Dans les dispositions actuelles des droits, une personne sans arrêter de manger ou boire seulement pourrait demander des soins palliatifs?
Mais avant la loi s'est passée, on avait le droit de demander le retrait de traitement médical, même d'arrêter de boire ou de manger.
Okay.
Et on a... connaissance d'une personne qui a fait ça parce qu'il ne voulait pas vivre en CHSLD.
Écoutez, c'est un peu terrible ce que vous dites. Malheureusement, on va manquer de temps. Il faut continuer de suivre ce que vous faites. Alors, on vous retrouve où, Amy Ashbrook, Christian Debré? Sur Internet, votre site web?
Oui, beaucoup sur Internet.
TVNDY.ca.
Ou encore sur les réseaux sociaux, à Toujours Vivant, Notre Dadiette.
Oui.
Facebook et compagnie. Et voilà. Ensuite, vous allez retrouver un vidéo facilement de Gabrielle Bouchard, une personne qui s'est suicidée avant la loi.
Oui.
Ouais. Et pour des raisons socio-économiques, disait-il.
Socio-économiques.
Merci beaucoup d'avoir passé notre émission. On espère que le débat va se faire entendre encore mieux grâce à vous.
Merci. C'est nous qui vous remercions.
Pour info, je vous invite à visiter le site notdeadyet.org. Notdeadyet, NOTDEAD. YET.org. Le 20 septembre dernier, à Accès libre, l'invité était Isabelle Cardinal, architecte de métier, mais aussi directrice des services de consultation pour la société Logique. Elle évoquait sa participation récente à une table ronde intitulée « Logement accessible, conception universelle et visitabilité ». Cet événement s'inscrivait dans le cadre de la stratégie nationale sur le logement destinée à ouvrir sur de nouvelles possibilités locatives accessibles au Canada.
Et le logement, votre toit, ce qui vous abrite, c'est clairement crucial. Alors, à l'issue de la consultation, on va accoucher au Canada d'une stratégie nationale du logement. Et donc, vous me voyez venir, le logement, ça doit aussi rimer avec l'accessibilité universelle. Et c'est pour ça qu'on invite Isabelle Cardinal, architecte et aussi directrice de la consultation chez Société Logique. Bonjour Isabelle.
Bonjour Benoît.
Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Donc, le 7 septembre dernier, on a réuni une vingtaine d'experts à Ottawa et on vous a conviés aussi.
Oui, c'est exact.
Et donc, cette consultation avait quel objet exactement?
Bien, en fait, le but là, poursuivi par la stratégie nationale sur le logement, là, tel qu'énoncé là, par le gouvernement, c'est vraiment d'arriver à ce que les Canadiens aient un logement qui réponde à leurs besoins. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que la thématique est large. Là. Il y a environ 18 thématiques qui ont été discutées là, la semaine passée.
Okay. Et votre thématique à vous, c'était logement accessible, conception universelle et visitabilité?
Exactement, c'est okay. ça.
Bon.
Donc, c'était une table ronde qui réunissait une vingtaine d'experts spécialisés en accessibilité à travers le Canada.
Bien. Donc, j'ai envie de vous dire, parce que ça sonne dans notre oreille, visitabilité. En tant qu'architecte et spécialiste de la question, qu'est-ce que c'est?
La visitabilité, en fait, c'est un niveau d'accessibilité qui est, on va dire, minimal, en fait.
Okay.
C'est de prévoir une accessibilité de base des habitations pour qu'un visiteur de notre famille, un ami ou quelqu'un qui a un besoin...
Ou même les parents, hein?
Oui, c'est ça. Mm. C'est pas de réaliser des habitations qui vont être habitées par une personne qui a une limitation fonctionnelle, mais c'est de permettre une accessibilité de base, au moins pour entrer, puis circuler dans les pièces des visiteurs, donc circuler au salon, avoir accès à la salle de toilette, mais c'est quand même assez limité là comme performance. On ne parle pas de logement accessible, adaptable, adapté, ou c'est vraiment un niveau qui est inférieur.
Et ce niveau de base-là, il n'est pas, étendu partout au Canada. C'est pas fréquent qu'on retrouve ce niveau de base-là.
Non, c'est très, très rare. En fait, le gros de la discussion qu'on a eue la semaine dernière, là, les différents experts, c'était vraiment pour faire le constat qu'au Canada, puis bon, ça se traduit partout dans toutes les provinces, le principal problème qui fait qu'on n'a pas de logement accessible, c'est la réglementation de construction qui est vraiment insuffisante.
Même défaillante, moi j'ai le droit de le dire.
Oui, défaillante, c'est ça, inexistante.
Oui.
Donc, on n'est même pas en train de parler de visitabilité. Là. Dans le code de construction, dans le code national du bâtiment, en fait, il n'y a aucune exigence d'accessibilité, peu importe le niveau là, dont on parle, à l'intérieur des logements.
Okay.
Et il n'y a aucune exigence non plus pour tout type de bâtiment, encore moins pour de l'habitation, d'avoir un ascenseur dans un immeuble d'appartement, par exemple.
Et ça devient... Est-ce que c'est de la visitabilité que d'avoir un ascenseur ou on est déjà plus proche d'un édifice accessible?
Ben, en fait, si on parle d'un édifice à plusieurs étages avec multilogement, par exemple,
mm-hmm.
c'est sûr que la visitabilité, si on veut que quelqu'un vienne nous visiter puis on est au troisième étage, on a beau faire une entrée, un stationnement et tout ça, puis des corridors, mais si on est limité au rez-de-chaussée, c'est entendu qu'à la base,
ouais.
on a manqué le bateau. Là.
On a vraiment manqué le bateau. Ouais.
Ouais.
Bon, revenons maintenant à cette consultation que le gouvernement a lancée. Quelle serait, d'après vous, les objectifs que s'est donné le gouvernement avec cette future stratégie? Puis, j'oserais dire, spécifiquement pour les personnes en situation de handicap, ou plutôt à l'égard de l'accessibilité universelle?
Pour l'instant, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils s'en vont avec ça.
Okay.
Ils sont en consultation
mm-hmm.
Jusqu'au 21 octobre.
Okay.
C'est sûr que nous, la semaine dernière, c'était une consultation auprès des experts. Parallèlement à ça, ils mènent une consultation publique là, où tous les citoyens, là, tous les Canadiens peuvent se prononcer sur le site Internet. Là. Je pense en parler à la fin.
On pourrait le dire, c'est tout de suite. C'est, hey boy, je ne l'ai même pas. Aïe, aïe.
Parlonslogement.ca.
Merci.
Donc, c'est ça. Ils mènent leur consultation jusqu'au 21 octobre. Ensuite, ils vont ramasser tous les commentaires qu'ils vont avoir eu, autant du public que des différents experts. Il y a un rapport qui va être établi. Puis, bon, votre question, c'est quel est l'objectif au départ? Je vous ai dit, c'est que tous les Canadiens aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. C'est sûr que ça se fait pas en criant ciseaux. La première étape, bon, c'est la consultation. Je pense qu'au terme de l'exercice, ils vont tirer des conclusions. Il y a une présentation de ce rapport-là qui va être faite au mois de novembre, je pense que c'est le 22
ouais.
novembre, dans la Journée nationale de l'habitation. Qu'est-ce qu'ils auront retenue.
Ça leur donne un mois pour compiler, c'est pas beaucoup quand même.
C'est pas beaucoup, hein, mais ouais. Bon, c'est sûr que je crois pas que la stratégie va être élaborée le 22 novembre, mm-hmm. mais je pense qu'ils vont quand même avoir suffisamment réfléchi pour dégager des grandes lignes pour chacun des thèmes. Là, en fait, l'accessibilité, c'est un des 18 thèmes qui a été abordé, mais je pense que c'est vraiment... C'est un premier tour d'horizon. Ouais. Par après, peut-être établir les différentes stratégies spécifiques à chaque thème. Puis là, ben après ça, mettre ça en branle, on verra là, ce qu'ils auront retenu de l'exercice, puis ouais. le niveau de difficulté aussi pour mettre en place les différentes mesures.
Isabelle Cardinal, j'oserais vous demander, je ferais peut-être même appel à votre nez, est-ce que vous sentez que la question de l'accessibilité universelle va avoir une bonne place dans la stratégie à venir?
Honnêtement, j'ai pas participé aux autres tables rondes. Là. C'est sûr que nous, on était comme dans un milieu clos. J'ai quand même senti, tous les professionnels et les experts qui étaient là, on est tous des gens qui évoluons dans le milieu depuis très longtemps.
Ouais. Vous parlez en convaincu un peu. Non?
Ben, on était enthousiaste, mais en même temps, on garde toujours un peu de scepticisme là que mm-hmm. ça demeure au niveau des idées. Là, on veut vraiment que ça passe à l'action. En fait, une des recommandations qu'on a faites à la fin, là, en plénière, fallait quand même arriver avec 5-6 recommandations là plus précises. Mais on souhaite vraiment que le gouvernement canadien prenne le leadership par rapport à la réglementation de construction, parce qu'à la base, c'est vraiment ça qui est défaillant. Mm-hmm. Puis tant qu'on n'a pas un minimum qui est exigé dans un code de construction, on n'y arrivera pas. Là. Si on passe par des programmes des programmes volontaires, des initiatives personnelles, on n'y arrivera jamais. Donc, il faut vraiment que le gouvernement canadien, par son code national de construction, donne une directive, puis par la suite, pour les provinces, puis pour les municipalités, mais ce sera un exemple, puis ils pourront par la suite bonifier ce code-là pour améliorer selon le profil de chaque province.
C'est bien important, en effet, de dire aux gens qui nous écoutent que ce code-là, au Québec, on ne peut pas aller en dessous.
Exactement.
Et c'est super important, et je veux juste rappeler, il y a eu, vous comme groupe et d'autres aussi, avez tenté de négocier avec le gouvernement dans le but d'améliorer le code, au Québec, comment on l'appelle
le
déjà?
Le code de construction du Québec.
Le code de construction du Québec. Et donc, plusieurs recommandations concernaient l'habitation. Mmh. Sam Hamad les a refusées en bloc. Mmh. Est-ce que vous pensez justement qu'avec un code national du bâtiment, qu'il y a des meilleures exigences en habitation, ça va forcer le gouvernement du Québec à obtempérer?
Bien, en fait, quand ils élaborent le code national du bâtiment, c'est au niveau fédéral, c'est un code qui est un modèle. C'est mm-hmm. pas un code qui a force de loi.
Okay.
C'est sûr que si le modèle, à la base, a des exigences, quand chaque province vient pour l'adopter, comme vous l'avez dit, on ne peut pas aller en deçà. Par contre, quand le gouvernement canadien élabore son code national, pour arriver à intégrer des mesures, il y a quand même un certain consensus qu'il faut avoir là, à travers les provinces. Donc ça, c'est plus les aléas politiques et tout ça.
Ouais.
Je pense que le Québec a beaucoup cheminé et mûr pour intégrer l'accessibilité dans les logements. Je sais qu'ils travaillent actuellement là-dessus aussi.
Oui, il faut dire que parallèlement, il y a une consultation de la Société d'habitation du Québec.
Oui, exactement.
Donc, c'est le temps de dire le mot magique, accessibilité universelle aux deux endroits.
Oui, exactement.
Bon.
Puis on espère qu'en 2016, le fruit est mûr.
OK. Ben, je nous le souhaite en tout cas. Écoutez, oui. Rappelez-nous, quand est-ce que cette nouvelle stratégie sur le logement nous sera présentée?
En fait, moi, j'invite les gens à aller sur le site de parlonslogement.ca jusqu'au 21 octobre.
Parce très important.
Parce que le public peut se prononcer, partager ses idées, répondre à un sondage, donner son opinion et faire des demandes.
Oui. Même déposer un mémoire, comme Société Logique aussi, j'imagine, va le faire.
Exactement. Mm-hmm. Donc, il y a trois façons de se prononcer, là, autant par monsieur, madame, tout le monde, des organisations et tout ça. Donc, il faut vraiment aller sur le site pour communiquer notre opinion. Par la suite, il y a environ un mois où tout ça va être compilé. Et le 22 novembre, 2016, lors de la Journée nationale de l'habitation, le résultat de cette consultation-là sera présenté.
Bien. Donc, rendez-vous pour tout ça sur parlonslogement.ca. Donc, on rappelle, vous pouvez partager vos idées, répondre à un sondage, y aller de vos propositions, déposer un mémoire, mettez-vous avec des gens s'il le faut. Puis même, ce mémoire-là, redonnez-le au forum sur Canada Accessible.
Exactement.
Si vous voulez être sûr que ça se rende comme il faut. Écoutez, ouais. Merci beaucoup, Isabelle Cardinal.
Bienvenue, ça m'a fait plaisir.
Ah oui, puis pourquoi pas, pour plus d'infos sur Société Logique, votre site web?
Sociétélogique.org.
Parfait. Merci, Isabelle Cardinal.
Bienvenue. À bientôt.
À bientôt.
Vous venez d'entendre de l'émission Accès libre présentée par Benoît Racette une entrevue donnée par Mme Isabelle Cardinal, directrice des services de consultation pour la Société Logique. Le lundi 19 septembre, dans le cadre de Portrait de famille, animé par Marianne Paquette, qui accueillait notamment Cindy Léonard, la maman d'un jeune garçon qui vit avec un handicap visuel contracté suite à un cancer. À cette occasion, Marianne Paquette s'est également entretenue avec Nadja Bouliane, au sujet notamment des outils technologiques utilisables par les enfants vivant avec un handicap visuel. Voici de nouveau cette entrevue.
Nadja Bouliane, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Paquette.
Vous êtes spécialiste en réadaptation en déficience visuelle du côté de INLB. Quel est votre rôle, d'abord, en tant que spécialiste de la réadaptation en déficience visuelle?
Donc, moi, je travaille à l'équipe enfance-jeunesse à l'Institut, dans l'équipe de communication, informatique, conventionnelle, tout ce qui a trait finalement à la communication. Puis, on fait des évaluations vraiment au niveau fonctionnel pour que les enfants puissent réussir comme les autres dans le milieu scolaire.
Mm-hmm. On le sait, l'apport d'outils technologiques permet aux enfants, aux adultes aussi qui vivent avec une déficience visuelle, une meilleure intégration. Qu'est-ce que vous observez de votre côté? Qu'est-ce que ça permet de faire, la technologie, pour les enfants qui vivent avec une déficience visuelle?
Bon, en fait, en premier lieu, on peut penser que la technologie règle beaucoup de problèmes, mais il faut toujours considérer le fait que les enfants ne savent pas automatiquement comment utiliser un ordinateur ou des aides techniques. Donc, il faut prendre vraiment ça en considération quand on va faire les attributions. Un enfant qui apprend à utiliser des aides techniques ne se concentre pas seulement sur les aides techniques, mais doit aussi se concentrer sur ses études. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire vraiment avant d'intégrer toutes les aides technologiques dans les milieux scolaires, c'est de leur montrer comment utiliser ces aides-là pour qu'ils soient à l'aise, puis qu'après, ils puissent vraiment se concentrer sur leurs études en même temps que l'utilisation de ces aides-là pour bien réussir.
Mm-hmm. Donc, j'entends bien, l'aide technologique peut aider à tout ce qui est la scolarisation, les apprentissages d'une part. C'est pas juste pour le divertissement, par exemple.
Ah non, absolument pas. Nous, notre objectif, quand on attribue des aides techniques, c'est vraiment, en premier lieu, de répondre à un besoin qui est académique. Mm-hmm. En fait, on n'attribuera jamais d'aide technique si l'enfant réussit avec un papier et un crayon à lire, par exemple, seulement avec un livre régulier. On va répondre il faut d'abord un objectif académique, puis ensuite, il faut des incapacités de la part de l'élève. Donc, c'est vraiment s'il n'arrive pas à fonctionner comme son père voyant dans la classe, bien, c'est là qu'on va venir compenser avec des aides. Ça peut être technique, ça peut être avec des adaptations, plus au niveau des agrandissements, puis tout ça, là, mais si on parle d'aide technique, c'est vraiment un de nos critères, c'est de remplacer, par exemple, le crayon ou la feuille en agrandi.
Quels sont-ils ces outils-là?
On en a plusieurs. C'est vraiment on a vraiment une grosse gamme là, d'outils technologiques. Souvent, on va recevoir des demandes qui sont assez précises. Le parent a entendu parler de quelque chose, par exemple, puis nous arrive avec une demande. Nous, on reprend ça avec la famille, avec le milieu scolaire aussi, pour vraiment bien évaluer. On a un outil, par exemple, il y a le Victor Stream, le Plextalk. Tout ça, on appelle ça des lecteurs numériques. Mm-hmm. C'est avec ça, par exemple, que l'élève va pouvoir se commander des livres à la bibliothèque pour écouter ces livres. Il y a des ordinateurs portables, il y a des ordinateurs de table. On a aussi des logiciels d'agrandissement qui vont permettre à l'enfant d'agrandir l'information, mais aussi de pouvoir entendre, par exemple, ce qui est écrit, de pouvoir changer le contraste du matériel qui est présenté à l'écran. On va avoir des supports à plan incliné, on va avoir des... En tout cas, il y a vraiment une grande, grande panoplie des écrans aussi, des écrans de toutes sortes de grandeurs. Mais l'important, ce qui est à considérer, c'est une de nos prémices d'intervention, c'est d'y aller vraiment de l'aide qui est la plus simple à l'aide la plus compliquée, la plus complexe. Ah oui. C'est une question de coût aussi. Le contribuable a sa part, sa part de responsabilité dans les attributions, mais c'est vraiment une question de besoin. Là. Ouais. Si une aide simple ne convient pas, on va y aller dans quelque chose de plus complexe.
D'ailleurs, vous en parlez de ces besoins-là. Lorsque l'enfant arrive avec sa famille, comment vous arrivez à les déterminer? C'est selon peut-être ses difficultés à l'école. Si l'enfant a certaines difficultés, on lui propose un outil ou une aide technologique qui va venir pallier à cet obstacle?
Oui, en fait, nos interventions commencent généralement par une difficulté au niveau académique. Souvent, c'est vraiment c'est une de nos portes d'entrée. À partir du moment où on connaît une difficulté, on va chercher le besoin de combler, là. C'est-à-dire que si, par exemple, c'est un besoin en lecture, on va faire toutes les évaluations des tests de lecture au niveau de la grandeur des caractères. On va pas aller chercher à comprendre sa compréhension, tout ça. Ça se fait vraiment en collaboration avec le milieu scolaire. Mais si, par exemple, l'enfant, on est rendu avec du 48 points en imprimé, peut-être que sa vitesse de lecture, là, il va prendre beaucoup de retard. Donc là, on va penser à aller chercher un lecteur numérique. Mm-hmm. Si, par exemple, on voit que sa posture est vraiment mauvaise quand il va lire sur un ordinateur portable, on va peut-être penser à un écran. Mais c'est une évaluation qui se fait. Généralement, on fait une partie d'intervention dans un laboratoire ici à l'Institut et en fait, une autre partie d'intervention qui est plus en milieu scolaire. Donc, on va parler avec l'enseignant, on va faire des observations aussi dans les milieux réels, ce qui nous donne une autre partie là, un autre regard, en fait.
Vous parliez tout à l'heure de tout ce qui est coût financier. Mm-hmm. Les appareils, bon, j'imagine qu'en effet, ils ont un certain coût. Est-ce que l'appareil appartient à l'enfant? Est-ce qu'il peut partir avec cet outil à la maison et à l'école par la suite? Est-ce que ça le suit dans son cheminement?
Ça va le suivre. Dans un premier temps, on a les attributions, en fait, qui sont dites RAMQ. Donc, c'est des attributions qui sont faites via l'agent payeur de la Régie de l'assurance maladie. Ces outils-là sont prêtés à l'élève ou à l'enfant, en fait, tout le temps qu'il en aura besoin. Il va pouvoir l'apporter à la maison, l'amener à l'école, dans le fond, selon ses besoins. Souvent, on va travailler avec le milieu scolaire parce que le milieu scolaire mm-hmm. a aussi un agent payeur, donc via le ministère de l'Éducation. Donc, c'est vraiment un travail qui doit se faire en collaboration entre les intervenants de l'Institut et les intervenants des milieux scolaires. Mais oui, il y a beaucoup d'appareils qui peuvent être défrayés par la RAMQ oui. ou par le ministère de l'Éducation.
On parle de succès à l'école ou du moins d'intégration scolaire depuis tout à l'heure, Nadja Bouliane, mais en même temps, la technologie ou du moins ces aides-là que vous apportez, ça permet aussi toute une compréhension du monde pour l'enfant, l'amène à développer des habiletés sociales, l'amène à discuter avec ses amis à l'école de choses qu'il connaît, mais qui sont connues aussi de tous les autres petits amis dans la classe. Donc, ça a des portées très, très grandes à ce moment-là.
Oui, je dirais, avec mon expérience, c'est un petit peu un couteau à double tranchant parce que il y a l'aspect, par exemple, informatique, aide technique, qui est très attirant pour l'enfant qui en a pas. Par contre, l'enfant qui vit une déficience visuelle, se voit différent des autres avec ces outils-là. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qu'on va devoir amener avec minutie. Puis, on peut impliquer à ce moment-là soit les travailleurs sociaux, soit les psychoéducateurs qui vont amener l'enfant à vivre ou à accepter, à savoir comment expliquer la raison de leur, la raison de leur utilisation, en fait, à ces aides-là. Donc, oui, c'est un objet de différenciation, mais c'est aussi un objet qui peut amener l'enfant à participer plus socialement avec ses pairs voyants.
Mm-hmm. Cindy, James Daniel, oui. Il vit comment la technologie? Est-ce qu'il aime ça ou pour lui, c'est une différence qui l'exclut?
En fait, au niveau de l'école, par rapport à l'ordinateur, c'est sûr que... il se sent différent dans un sens parce que, bon, il faut qu'il branche son ordinateur tous les jours. Il a besoin d'un bureau spécial, donc il est
à l'extérieur de la classe.
Oui, dans le fond de la classe, en fait.
OK.
Il y a aussi le fait que, bon, si c'est une adaptation, il est dans ses débuts avec son ordinateur portable, donc d'écrire ses dictées, tout ça, d'installer tout ça, les autres élèves sortent un papier, un crayon, c'est fait. Lui, il doit ouvrir Word, il doit s'assurer que tout est bien placé. Il n'est pas à l'étape non plus d'aller directement sur le clavier d'ordinateur. Il y a une petite planche braille sur laquelle ça représente un petit peu sa dactylo qui l'utilise, tout ça. Donc, c'est déjà arrivé une fois aussi que, bon, il y a eu un petit... un bris, si on veut, avec quelque chose. Bon, mais là, c'est de... faut compenser ailleurs, tout ça. De ce niveau-là, il trouve ça un petit peu plus difficile. Par contre, il y a le Victor Reader, justement, qui lit ses livres audio, sa musique, oui. Tout ça. Il n'y a pas nulle part où il va, à part à l'école, sans son Victor. On doit lui retirer pour l'école, là, parce qu'il veut aller écouter sa musique, il veut écouter ses livres audio, tout ça. Pour ça, là, il est vraiment très heureux.
Il fait des notes vocales aussi.
Oui.
Ça veut dire quoi, ça?
Exemple, il est allé à un camp avec la Fondation des aveugles cet été pendant une semaine. Nous, on le prend, c'est... Moi, je compare ça à un téléphone cellulaire.
Ouais.
Il peut tout faire comme un téléphone cellulaire dans un sens, sauf appeler. Tu pèses sur un bouton, tu fais ta note vocale, tu lâches le bouton, ça l'enregistre.
Et ça, ça l'amuse beaucoup.
Oui. Puis c'est le fun aussi parce que nous, on peut lui faire des notes... exemple, comme moi, là, j'étais pas là pour l'heure du dîner, je pouvais lui faire une note pour lui dire « Bon dîner, amuse-toi avec papa. »
Maman est à la radio.
C'est ça. Ou quand il est parti encore, mais ça nous a permis, c'était la première fois qu'il partait seul pendant plus de 24 heures, ça nous a permis de lui faire une note pour tous les soirs avant son dodo, des choses comme ça. Ou lui aussi, comme on lui a expliqué, il veut l'amener à l'école pour, admettons, les mots d'orthographe ou certaines choses que le professeur veut expliquer que, admettons, il aurait besoin de plus d'explications ou de le réécouter. Mais pour l'instant, il est vraiment à l'étape de « je joue avec, j'écoute mes livres », tout ça. Ouais. Fait qu'on lui a dit « on va attendre un petit peu une certaine maturité ».
Nadja Bouliane, en terminant, pour avoir accès à ces services-là, l'Institut Nazareth et Louis Braille, c'est un centre de réadaptation. Donc, il faut passer par un médecin. Comment ça fonctionne pour avoir accès à ces services?
Généralement, il faut que l'enfant ait eu un examen en optométrie ou en ophtalmologie dans la dernière année. Donc, avec cette référence-là, il peut avoir accès à une évaluation qui va être faite par une travailleuse sociale si l'enfant a déjà été vu puis il y a déjà un dossier ici à l'Institut, il peut passer directement là, au service de réadaptation. Mais pour avoir une intervention, pour avoir des services, il faut nécessairement avoir une situation de handicap, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait un besoin vraiment déterminé ou énoncé là, par le parent ou par les enseignants.
Oui. Nadja Bouliane, vous êtes spécialiste en réadaptation en déficience visuelle du côté d'INLB, inlb.qc.ca pour en savoir davantage sur tous vos services. Merci beaucoup, ça a été un plaisir.
Merci, au revoir.
Extrait des paractualités du 21 septembre, cette nouvelle concerne tous les Canadiens qui soutiennent fermement l'accès à des soins palliatifs de qualité.
Les Canadiens soutiennent fermement l'accès à des soins palliatifs de qualité. L'initiative L'importance des soins palliatifs a publié les résultats d'une enquête Ipsos sur les soins palliatifs. Ces résultats, conjugués à des communications présentées par d'éminents chercheurs du domaine, forment une partie essentielle des données probantes qu'un panel de citoyens canadiens pèsera lors d'une conférence visant à forger un consensus national qui se tiendra à Ottawa du 7 au 9 novembre 2016. L'importance des soins palliatifs tient à souligner le soutien financier du partenariat canadien contre le cancer, dont la contribution a rendu l'enquête Ipsos possible. Les résultats de l'enquête montrent un important soutien pour des soins palliatifs de grande qualité, et ce, pour tous les Canadiens qui vivent dans les régions rurales ou éloignées, ou encore dans des centres urbains. Les Canadiens sont également fortement en faveur de la prestation de soins palliatifs dans un éventail de milieux, notamment les hôpitaux, les centres résidentiels et le domicile. Ils estiment que les programmes devraient être complets et tenir compte des aspects physiques, affectifs et humains des soins, signale Fred Horn, coprésident de la conférence visant à forger un consensus national et ancien ministre de la Santé de l'Alberta. Cette enquête jette les bases de la prochaine phase de cette initiative, indique Karen McMillan, chef des soins palliatifs pour Covenant Health et coprésidente de la conférence. Alors, de quelle initiative parle-t-elle? Eh bien, de mieux faire savoir aux Canadiens que les soins palliatifs, cela existe. Savez-vous que seuls 58% des Canadiens sont conscients de ce que représentent les soins palliatifs en l'absence de soutien, et seuls 55% d'entre eux sont au courant de l'existence de soins de fin de vie. Ceci explique cela. Vous pourrez trouver les résultats complets et les détails de la conférence. Ils sont disponibles à www.palliativecaremeters.ca. De toute façon, vous retrouverez cette adresse également sur notre site internet à canalm.vuesetvoix.com, en dessous l'étiquette les paractualités. Voilà, c'était le National. Ici Clotilde Seille qui remercie l'équipe de Canal M qui permet la réalisation de cette émission. Bonne fin de semaine.